Salut tout le monde, vous êtes bien à l'écoute du 94 MHz de Canal B. Salut Juliane.
Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous.
C'est la rentrée de la maison de disques. Voilà, tu as passé de bonnes vacances toi,
Julien ? J'ai passé d'excellentes vacances.
Super.
Vraiment.
Super.
Tu veux que je te donne un souvenir de vacances ?
Vas-y.
Allez, c'est le concert de Guy Blackman à Binic.
Eh ben écoute.
Et on était ensemble.
et j'allais te dire que ça fait aussi partie des moments de mon été pas désagréables, voire même très agréables. Il y en a eu d'autres. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver à l'antenne de Canal B. Donc, pour rappel, la maison disque, c'est toutes les deux semaines à 18h le jeudi, rediffusé le samedi à 16h. Notre objectif, vous faire découvrir ou redécouvrir des labels indépendants. Petits, moyens, grands, même si on est quand même plutôt sur des petits. Là, on va dire qu'on est sur un moyen, mais on est surtout sur un label qui a 36 ans. Donc c'est pas rien, quand même, 1989. Et je veux parler du label Slumberland Records.
Tout à fait, et on prend pour ce premier épisode de la saison, mais épisode numéro 81.
Tout à fait.
Voilà, on va peut-être faire la centième cette année, ça va être de la folie. On prend la direction de la Californie, voilà, même si le label a débuté plutôt du côté de Washington, en plein milieu des années 80, parce que comme tu le dis, c'est un label qui a 36 ans. Alors, Michael Schumann, qui est le fondateur et le seul et unique maître à bord du label encore maintenant, avec des amis d'université, ils étaient passionnés de musique, ils étaient très alertes de tout ce qui se passait à cette époque-là, donc à savoir des labels, ils avaient pour label référence Flying Nun, Creation Records, et étaient assez fans de Jesus and Mary Chain. Donc voilà, donc la plupart d'entre eux ne savaient pas du tout jouer de musique, mais ils ont quand même acheté des instruments, un 4 pistes, et voilà, comme l'histoire est belle, ils ont réussi à faire des morceaux, ils ont réussi à faire des concerts, et ils ont enregistré en la fin de l'année 1989 une première compilation, dont on vient d'entendre un extrait en musique d'intro, une compilation qui s'appelait « What kind of heaven do you want ?» A Slumberland Compilation, donc la compilation du pays des rêves, et le nom Slumberland est resté comme nom de label. Donc voilà, la naissance du label vient de cette compilation, et ce nom, le Slumberland, ça vient de, pour la petite anecdote, parce que je sais que tu es...
J'adore les anecdotes.
J'adore les anecdotes, et que tu aimes les bandes dessinées, et tout que moi fait. Aussi. Ça provient d'une bande dessinée du début du XXe siècle qui était baptisée Little Nemo in Slumberland, de Winsor McCay, tu connais ?
Non.
Voilà, je suis allé voir des planches, c'est très 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 beau et ça a l'air très rigolo.
J'y vais voir.
Faut maîtriser l'anglais. Voilà, donc c'est une BD qui a l'air très étrange et magnifique, et Mike Schulman nous l'a dit dans la petite interview qu'on a fait de lui par mail, que ça ressemblait très bien à la musique qu'il faisait avec ses copains, ce côté étrange et magnifique. Donc ça, c'était pour les tout débuts du label, donc c'était à Washington, et le label a assez vite migré du côté de la Californie, où maintenant il est implanté et où il est vraiment une référence de l'indie pop. Et donc c'est un label qui a 36 ans, et on va commencer on va ausculter ce label, je vais dire, avec la période donc 1989-2010, et je te laisse nous présenter un premier morceau.
Tout à fait, le projet de Boy Racer, qui a été fondé à Leeds en 1990 par un certain Stewart Anderson, qui, et c'est la personne la plus importante, reste le seul et l'unique membre à être encore présent dans le groupe aujourd'hui, puisque le groupe existe encore aujourd'hui. Il a traversé les années en changeant systématiquement la formation, donc c'est pour ça que ce fameux Anderson Stewart est la pièce maîtresse de ce groupe. On est plutôt dans une veine indie punk avec un côté un peu noise que moi j'aime bien sur le disque là dont je vais vous faire écouter un extrait. Donc le morceau qu'on va écouter, il est sorti sur l'album qui est donc un album de 1994 qui se nomme More Songs About Frustration and Self-Hate, et le morceau en question se nomme Define Beauty.
On vient à l'instant d'entendre le morceau Long Distance de le groupe Go Sailor, paru sur leur EP du même nom en 1995. Alors Go Sailor, c'est un groupe de San Francisco, c'est ce qu'on peut appeler un groupe éphémère, mais c'est surtout un super groupe de l'indie pop californienne des années 90. C'est un trio composé de Rose Melberg, aussi membre de Softies et Tiger Trap, mais je suis sûr qu'on reparlera de l'un de ces deux groupes d'ici peu de temps, et aussi de Paul Curran de Creepshire, et de Amy Limpton, qui est membre de Henry Dress, et aussi plus tard du magnifique groupe Aisler Sets, dont on va aussi reparler dans l'émission. Voilà, je dis éphémère car le groupe a sorti 3 EP et juste un album compilation entre dans la fenêtre de 1994 à 1996. Voilà, donc la plupart des EP sont sortis sur le gros label américain Lockout Records, mais aussi un petit EP dont on vient entendre un extrait longue distance sur Slumberland Records. Donc voilà, c'est une durée de vie assez courte pour le groupe, mais pour la petite anecdote, et ça j'ai trouvé ça très drôle, Rose Melberg a déclaré à propos du groupe en interview que le groupe s'était jamais vraiment arrêté. Ils ont fait de la musique 2 ans, mais vu qu'ils habitaient trop loin les uns des autres pour faire de la musique, bah, ils se sont jamais dit on arrête, juste ils venaient plus aux répètes parce que c'était trop loin, et voilà, donc c'est un groupe qui s'est plus essoufflé qu'arrêté. Donc pour présenter un peu plus Go Sailor, on a pu l'entendre, c'est un groupe très twee, punk, indie pop 90, avec des guitares que je trouve très claires et absolument magnifiques. Je suis absolument fan aussi de la douceur de la voix. Et alors j'espère que vous avez écouté très fort parce qu'il y a une section rythmique que je trouve très très bonne aussi, et j'ai un grand penchant pour les lignes de basse. Alors voilà, si vous avez, je vous invite à aller écouter parce que moi la ligne de basse suffit à me faire danser. Donc voilà, c'est vraiment un disque, les EP et la compilation, je les conseille. Alors comme souvent avec les groupes de cette époque-là, ça est un groupe éphémère, donc il y a une rareté absolument, comment dire, une très grande rareté des disques, et ben ça a contribué à faire sa réputation aussi, je pense, le fait que voilà, c'est un groupe qui dure que 2 ans, qui fait des trucs trop bien, donc on peut vendre des disques à 300 euros.
J'enchaîne, puisque effectivement c'est plus qu'une passe décisive, c'est une excellente transition, puisque moi je vais vous passer un morceau de The Softies, donc dont fait partie Rose Melberg, avec elle en duo une certaine Jen, donc J-E-N Sbragia, S-B-R-A-G-I-A, qui elle a joué dans le groupe Pretty Face, notamment The Softies, qui s'est fondé en 1994 à Portland, qui est nommé souvent comme un groupe de twee-pop, sauf qu'elle n'apprécie pas ce terme de twee-pop. Elle se revendique comme de l'indie-pop délicate et minimaliste, et je trouve que ça leur va très très bien, finalement.
Est-ce que c'est pas la définition de la twee-pop?
Ben, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai lu. Elles veulent pas être qualifiées de twee-pop. The Softies, on vous a déjà passé un morceau à l'antenne, puisque The Softies, c'est aussi un des groupes emblématiques de Kay Records, le label de Kevin Johnson. Et d'ailleurs, leurs 3 premiers disques à The Softies sont sortis sur Kay Records, donc 95, 97 et 2000. Et moi, je vais vous passer un morceau d'un EP, qui est un EP éponyme, qui s'appelle The Softies, donc, qui est sorti en 1996 sur Slumberland Records. Bah, ça s'écoute tout seul, en fait. Hein. C'est ce genre de petit EP où tu te dis, bah, ok, je lance et je m'arrête pas. C'est beau, c'est bien écrit, c'est bien composé. Ça a l'air très simple comme ça, mais ça ne l'est pas du tout, j'en suis persuadé. Et le morceau que je vous propose d'écouter, c'est Count to Ten. Thank you.
Vous êtes toujours dans l'émission La Maison de Disques sur Canal B 94 MHz et aujourd'hui on vous parle du label Slumberland Records. À l'instant on vient d'écouter le morceau I Love You Like The Way That Used To Do de Rocket Ship, paru sur l'album qui est sorti en 1996 Certain Smile, Certain Sadness. Rocket Ship, c'est le projet de l'américain Dusty Rusk, très connu pour cet album dont on vient écouter un extrait. Il a continué après pendant de nombreuses années à sortir des disques, et notamment des disques d'ambiance. Donc je pense qu'on pouvait s'en douter vu la dernière minute de ce morceau.
Il devait être trop frustré à l'époque, du coup il se disait tiens, je vais te balancer 40 secondes d'ambiance en fin de morceau.
Parce que le morceau qu'on vient d'écouter, c'est pendant 3 minutes un super morceau d'indie pop avec une fin légèrement un peu plus énervée et noisy, et après voilà, on passe sur quelque chose d'un peu plus ambiante, étrange, voilà. Donc, et sur l'album, c'est en quelque sorte un peu ça. Pendant tout l'album, tu passes de mélodies indie pop mignonnes à des éléments sonores brutistes, voilà, tu vois, il équilibre l'album comme ça, mais c'est assez chouette. Et c'est aussi ce morceau là c'est le morceau d'ouverture de l'album. Et alors moi j'aime beaucoup écouter les morceaux d'ouverture parce que je vais faire une image assez bête, mais c'est un peu tu ouvres la porte et tu vois où tu mets les pieds. Tu vois, et là, bah, je dirais que je me suis dit ah putain, c'est trop bien, c'est de la bonne indie pop, mais il y a un petit truc étrange.
Étrange, ouais.
Voilà. Et alors, j'ai réécouté pour l'émission cet album de Rocket Ship, et je me suis fait une petite réflexion sur ce label parce qu'il y a vraiment un côté. C'est un album qui est devenu culte, mais un peu a posteriori avec l'ère d'Internet, tu vois. Et donc ça a donné, ben pareil que pour le précédent, les Ghost Sailor, ça a donné des tarifs de vinyle
exorbitants.
Et Dusty Rusk, il n'aimait pas du tout ça, donc le fondateur de Rocket Ship, et il a insisté auprès de plusieurs labels pour qu'il y ait des rééditions de ce disque, parce qu'il le dit, et ça me fait très rire, il le dit, je veux pas que les gens vendent leur vélo pour acheter ma musique.
C'est très drôle, c'est très marrant. Mais en même temps, je trouve ça vraiment tout à fait louable parce que pour avoir déjà plusieurs fois cherché des disques qui commençaient à grimper, et notamment, je pense à un disque où j'avais contacté le label en disant « Quand est-ce que vous allez le rééditer ?»« Ah ben, on le rééditera jamais, c'est sûr, on n'a pas les droits, machin truc. » Et puis en fait, 3 ans plus tard, j'avais bien fait d'être patient et de ne pas lâcher 250€ dans le disque, puisque finalement, le disque était réédité et je me suis empressé de l'acheter.
Et t'as toujours ton vélo.
Et j'ai toujours mon vélo, ouais, tout à fait. J'ai pas eu besoin de revendre mon vélo pour acheter le disque. Mais je vois bien le délire et je trouve ça assez intéressant. Et du coup, c'est Slumberland qui l'a réédité ou pas, le disque, ou ça a été réédité?
Non, ça a été réédité sur des labels japonais, il me semble.
Ok, d'accord.
Voilà.
Bah, par contre, tu dois revendre ton vélo pour payer les frais de port.
Voilà, c'est ça. Mais tu sais, je pense que vu qu'il a sorti des albums d'ambiance un peu sur plein de labels différents après, il a aussi dû connaître d'autres personnes que de l'indie pop, et je pense que c'est par ce biais-là qu'il a pu rééditer ses albums.
Eh ben moi, je vais vous faire redécouvrir un morceau qui est tiré d'un album qui date de 1997, donc sur Slumberland Records, et c'est un excellent disque que moi j'ai découvert, puisque effectivement, je vais être très honnête, c'est une époque où je n'écoutais pas d'indie pop, et que parfois, ça fait partie des angles morts, et Slumberland, les débuts de Slumberland, je les connaissais pas très bien, alors si Stereolab, dont on passera pas de morceaux d'ailleurs, et là, je voulais vous parler du groupe The Ropers, qui a sorti un excellent LP qui s'appelle, qui se nomme, alors je vais pas dire de bêtises, Revolver, non pardon, All the Time, et moi le morceau que je vais vous passer, c'est le morceau Revolver, et c'est un groupe qui s'est formé à Washington DC en 1991 autour de deux personnes, Doug Bailey et Mike Hamel. Et on est sur une espèce de mélange d'indie pop shoegaze, très inspiré plutôt par la shoegaze britannique, qui combine à la fois des guitares, les fameuses guitares jubilatoires qu'on entend très souvent chez Slumberland Records, mais aussi pas mal de mélodies très accrocheuses. Et en fait, c'est cet album, qui, en fait, ils en ont fait que deux. Et donc, c'est pareil, il y a un culte un peu autour de cet album, All the Time, puisque vu qu'ils en ont sorti que deux, les gens se disent, mais c'est excellent. Et ils reviennent dessus. Et du coup, il y a eu pareil, il y a un espèce de truc de c'est un one shot, le groupe finalement aura même pas vécu 10 ans et c'est très bien. Et du coup la petite particularité aussi du groupe, qui est un peu moins le cas je trouve dans les dernières années de Slumberland, c'est que ça frôle parfois le noisy, la noisy pop ou la pop noise. Il y a moins ça je trouve chez Slumberland, donc c'est assez cool aussi de pouvoir se replonger dans les précédentes années, et donc je vous propose d'écouter par vous-même cet excellent morceau qui se nomme Revolver du groupe The Ropers.
C'était le morceau The Red Door de l'excellent groupe The Eisler 7 sur leur second album paru en 2000 et intitulé The Last Match. Donc là, je vais être très clair, c'est un de mes gros coups de cœur, même mon groupe préféré de l'époque, on va dire, plus ancienne de Slumberland. Voilà. J'ai eu énormément de mal à choisir un morceau de cet album, mais j'ai fini par choisir. Donc j'en ai parlé précédemment, Eisler 7, c'est le groupe d'Amy Linton qui, si vous avez bien suivi, jouait dans Ghost Sailor, le premier morceau que je vous ai passé. C'est elle là qui compose la plupart des morceaux de Eisler 7 et aussi qui les enregistre, parce que cet album, il a une particularité, c'est qu'il y a une partie des morceaux qui ont été enregistrés dans le garage d'Amy Linton et l'autre dans un entrepôt dans lequel vivaient les autres membres du groupe. Donc quand on l'écoute beaucoup beaucoup, on s'aperçoit des différences de son et on se dit ah, ça ça vient du garage, ah ça ça vient de l'entrepôt. Donc ouais, c'est un album qui regorge pour moi de plein de choses. Il est sorti en 2000, il regorge de plein de choses, de plein d'idées, il y a des orgues et des claviers qui sont parfaitement placé, il y a des harmonies vocales qui vont rappeler des choses assez 60s comme par exemple les Ronettes. Voilà, donc c'est vraiment, je crois qu'il y a 12 morceaux, non, je dis que c'est... j'adore cet album mais je ne me rappelle plus le nombre de morceaux, je crois qu'il y a 12 morceaux et vraiment pour moi il n'y a aucun pas de côté, tout est parfait et j'aime beaucoup la voix qu'on a pu entendre d'Amy Linton qui est un peu faussement candide mais qui rajoute un truc accrocheur. Voilà, ça fait vraiment partie des disques que j'écoute très souvent et notamment je voulais en parler. Il y a un morceau qui s'appelle Fernchant, sur lequel, à chaque fois que je l'écoute, je fasse totalement sur une montée commune entre un cuivre, entre des cuivres et un clavier. Voilà, c'est absolument parfait. Donc, si vous avez le courage, écoutez ce morceau et vous verrez vers 2 minutes 50, il y a cette montée de cuivre et de clavier. Et c'est absolument génial. Et aussi, c'est cet album qui m'a permis de découvrir le label Slumberland Records. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai cet album à cœur, parce que ça m'a permis de découvrir un label que j'aime beaucoup.
Ça fait beaucoup de hashtags, hashtag coup de cœur, hashtag
ouais. Que. Acheter.
Moi, je vais vous faire découvrir une autre facette, on en parlait hors antenne tout à l'heure, tous les deux, Julian, du label Slumberland Records, celle qui est qu'il y a quelques années, ils se laissaient un peu plus d'opportunités à aller explorer des champs musicaux un peu différents, et quel ne fut pas mon plaisir de découvrir un groupe qui s'appelle Nord Express, et quand j'ai lancé l'album, un des deux, parce qu'il n'y en a que deux albums, encore un projet très éphémère, deux albums de 96 et 97, je me suis dit, mais attends, mais c'est du slowcore, ça, c'est... et tu connais mon... Voilà, j'adore le slowcore, du coup, et donc...
J'imagine ta joie.
Eh ben oui, je me suis dit, mais jamais j'aurais pensé... voilà. Et donc, effectivement, Nord Express, qui est un projet qui mêle du slowcore, de la dream pop, de l'indie pop, qui est originaire de Baltimore, mais qui a également officié du côté de Portland entre 1993 et 1997. Finalement, leurs deux albums que j'ai écoutés sont extrêmement bons, mais alors n'ont pas du tout fonctionné. Quand je dis fonctionné, c'est dans les ventes et dans le... Voilà. Et pourtant, on est vraiment face à une musique avec des espèces de textures très cinématographiques, très aériennes. Des compositions hyper plein de délicatesse et plein de goût, surtout de bon goût. Et tout ça fait dans une ambiance un peu do it yourself. Et moi, j'ai choisi, sur l'album de 97 qui s'appelle Central, j'ai choisi de vous passer le tout dernier morceau qui est vraiment, vraiment très, très chouette. En tout cas, c'est le plus long morceau d'ailleurs de notre playlist ce soir. Il fait un tout petit peu plus de 5 minutes et il se nomme Lighthouse, donc on écoute tout de suite Nord Express.
Toujours à l'écoute de Canal B et de l'émission La Maison de Disques, qu'on vient à l'instant d'entendre les Anglais de 14 Iced Beers, anglais qui viennent plus précisément de Brighton. Et le morceau qu'on vient d'écouter, c'était Balloon Song, sorti initialement en 1987, mais ressorti en 2001 sur une compilation CD par Slumberland Records. Voilà, c'est un truc que Slumberland aime beaucoup faire, j'ai l'impression, c'est faire des compilations de EP, de raretés, de, même de live ou de live session, notamment chez John Peel à la BBC. Donc, 14...
Feu John Peel. Qui était quand même un sacré... Jean Fast, tu l'as ou pas? L'amical Jean Fast, John Peel, tu l'avais pas?
Oh, je l'avais pas.
Ah ben, voilà. Gwen, si tu nous écoutes, c'est Gwen qui a trouvé
l'amical Jean Fast. Pourquoi Jean Fast? C'est quelqu'un que je connais pas.
C'est ça, et là vous vous demandez de quoi on parle. On parle d'un groupe Facebook qui s'appelle l'amical Jean Fast, sur lequel on se partage beaucoup de très très bonnes musiques.
Oui.
Et donc est un
l'un de mes principaux curateurs de musique.
C'est ça, John Peel, Jean Fast.
Voilà. Ok.
Ah bah, je ne l'avais pas non plus au début, je te rassure.
Donc c'était 14 Iced Beers, c'est un groupe qui lui aussi, encore une fois, a une fenêtre on va dire, de vie assez courte entre 1986 et 1991, avec quelques reformations un peu plus tard. C'est un groupe phare de la scène britannique bien connue qu'on appelle la C86, je vais le dire à la française. Cette scène assez proche de la jungle pop, même si ce n'est pas de la jungle pop, assez d'inspiration très Birds, mais pas trop Birds, avec des touches de psychédélisme, mais pas trop psychédélique, et beaucoup de power pop et de noise pop, et ça c'est mon avis plutôt personnel. Donc vous l'avez entendu, c'est un groupe anglais, car le label a sorti aussi pas mal de groupes anglais, et on le verra je pense dans notre prochaine émission, ça continue à avoir un lien assez fort entre la Californie et le Royaume-Uni, on va dire, au niveau des sorties de Slumberland Records. Donc voilà, donc Slumberland a sorti ce groupe, 14 Iced Beers, c'est un peu, alors on vient de l'entendre, c'est très, il y a un truc très 60s dans le côté garage assez fuzz, je dirais, un truc assez frontal, mais il y a aussi cette petite voix 60s harmonieuse, notamment sur le chant. Voilà, j'aime beaucoup ce morceau parce qu'il me fait aussi penser un peu, et là j'ai l'impression de radoter et que je vais dire ça à chaque émission, il me fait penser un peu aux premiers enregistrements de TV Personalities. Voilà, j'en parle à chaque fois.
C'est un peu ton Kevin Morby qui...
C'est ça, ça va être mon Kevin Morby. Voilà, et avant de continuer, je voudrais remercier Mike Schulman d'avoir répondu très gentiment à notre mail avec plusieurs questions, et on a notamment une question où on lui demande comment se fait le choix des groupes. Alors, il nous a dit que le choix est toujours guidé par sa passion, sa propre passion, et il a pour seul critère, j'ai trouvé dans une interview, l'émotion et l'authenticité. Alors, il l'avoue, c'est bien souvent des amis qui sortent, ou des amis d'amis. Ils veulent juste qu'ils aient l'urgence de faire de la musique et absolument pas l'ambition de devenir célèbre.
C'est très bien.
C'est loyal.
C'est une très bonne chose quand on a un label de musique indépendante. Je vais vous faire écouter et découvrir ce qui est probablement dans la playlist qu'on vous passe ce soir, en tout cas pour les choix de morceaux que j'ai fait, ma plus belle découverte. Complètement inconnu, ce trio de Boston qui s'est créé en 2003, qui s'appelle Pants Yell, avec un point d'exclamation après le Yell. En fait, c'est une espèce de jungle pop. Alors eux, ils se disent post-jungle pop. Donc c'est marrant de se... voilà. Et du coup, c'est mené par un certain Andrew Churchman, qui a débuté dans sa chambre d'étudiant. Après, il a commencé à faire quelques concerts, repéré par Slumberland en 2009, puisque là, on s'est tout gentiment rapproché quand même de l'année 2010, qui est la fin de notre première période avec Julian sur cette première émission. Le groupe a sorti 3 albums, et moi j'ai décidé de vous passer un extrait de l'album de 2009 qui se nomme Received Pronunciation, et ça s'écrit dans le texte, le morceau s'écrit Rue de la Paix en français, et donc on écoute le groupe Pants Yell.
I remember every little thing.
c'était les New Yorkais de Pains of Being Pure at Heart. Et on vient d'écouter le morceau A Teenager in Love, paru sur leur premier album en 2009. Donc voilà, c'est le groupe qui a probablement un des groupes qui a le plus contribué à l'essor du label dans le monde entier, car c'est un album qui a rencontré vraiment un sacré succès. Et Mike Shulman nous disait dans les réponses qu'il nous a faites que c'est aussi l'album qui s'est le mieux vendu de tous les albums du label.
Le plus réédité, je pense, ouais. En tout cas.
Et aussi qu'il y a eu une grosse couverture médiatique avec des gros médias aux États-Unis. Voilà, c'est un album de noise pop avec beaucoup de claviers, des mélodies. Voilà, il y a beaucoup de choses dissimulées, une sorte de pop brumeuse assez joviale quand même, pas très dark. Voilà, et je trouve que The Pains of Being Pure at Heart, c'est un des groupes qui a aussi un peu insufflé un renouveau au début des années 2010 de Slumberland avec un autre groupe dont je pense que tu vas nous parler.
À l'instant, maintenant, oui, peut-être. Ouais. Donc Crystal Stilt, qui a sorti un album sur Slumberland Records, qui a débuté sa carrière en 2008 avec un album sur l'excellent label Woodist, et qui depuis a signé sur l'excellent label également dont on a parlé déjà à la maison de disques qui s'appelle Sacred Bones Records. C'est un quintet post-punk psyché qui a été formé à Brooklyn par un certain Brad Arquette et un JB Townsend. Voilà, je vais pas en dire beaucoup plus parce que je préfère qu'on écoute le morceau jusqu'au bout. En tout cas, ce fut un plaisir cette rentrée, Julian, avec toi, Slumberland Records, la Californie,
de la musique. On est encore un peu en vacances.
Voilà, exactement. On prolongera ça dans deux semaines puisqu'on fera la période 2011-2025. Plein de très 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 belles choses également à vous faire écouter.
Dur de faire des choix.
Voilà, là on vous a pas passé de Lorelai aussi qui fait partie des... Voilà, il y a plein de trucs qu'on aurait pu vous passer, mais on a fait des choix. On a passé 12 morceaux et donc le 12e sera le morceau Departure de Crystal Stilt, et on vous fait des bisous, on vous dit à bientôt.
Bisous.